Le droit animal, c'est le sujet qui nous intéresse à la fin de l'émission. C'est suite, je vous le dis, à la publication d'un livre de Jérôme Segal, qui est vraiment une sommité quand vient le temps de parler de l'antispécisme. Vous savez, l'antispécisme, c'est au fond de lutter contre les discriminations qui sont fondées sur l'appartenance à une espèce animale. Alors, le droit des animaux, il s'y est intéressé. Il fait, dans ce petit livre-là, publié ces jours-ci là chez Lux Éditeur, une histoire du droit des animaux, une sociologie de l'antispécisme. Et vraiment, c'est l'aspect politique de la lutte. C'est ce qui nous a intéressés ensemble. On l'a rencontré la semaine dernière, Monsieur Segal. Il est en Europe. Alors, on lui a passé un petit coup de fil. On vous présente l'entrevue tout à l'heure. Et c'est vraiment l'angle qu'on a suivi, c'est-à-dire à quel moment dans l'histoire le droit animal entre en politique, si vous voulez. C'est vraiment intéressant. Il a fait une enquête, lui, sur le droit animal et la politique en Israël, en France et chez nous, au Québec, au Canada également. Alors, l'entrevue avec M. Segal, diffusée à 17h40. De quelle façon se fait la lutte politique pour la reconnaissance du droit animal? C'est un peu ce qu'explore le livre de mon prochain invité. Le livre s'appelle « Animal radical, histoire et sociologie de l'antispécisme ». C'est publié chez Lux Éditeur. L'antispécisme, vous savez, c'est un mouvement qui s'oppose à toute hiérarchie entre les espèces. Autrement dit, l'être humain est un animal comme un autre et tous les animaux ont besoin des mêmes protections. On lui a passé un petit coup de fil. Il est en Europe, M. Segal. On vous présente l'entrevue qu'il m'a accordée. Jérôme Segal, bonjour.
Bonjour.
D'abord, à quel moment est-ce que la défense des animaux vient s'introduire sur l'arène politique, disons?
Alors, c'est bien que vous parliez de politique, parce qu'en fait, dès l'Antiquité, il y a des philosophes, par exemple, qui écrivent pour les animaux. Mais si on parle de politique, je pense que c'est au 19e siècle qu'il faut se repérer. Et dans le 19e siècle, au milieu, il y a un passage de la protection à la défense des animaux. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est important dans la deuxième moitié du 19e siècle.
Pourquoi? Quel passage se fait entre ces deux notions, à votre avis, selon vos recherches?
Alors, la protection, c'est ce qu'on connaît avec la société protectrice des animaux, d'abord en Grande-Bretagne, ensuite en France, ensuite au Québec. Et là, avec la protection des animaux, il s'agit d'essayer de faire passer des lois pour limiter un peu la souffrance animale et les mauvais traitements, mais seulement pour les animaux de compagnie ou les animaux, notamment les chevaux, qui sont utilisés par l'homme. Alors que ce qui se passe à la fin du 19e siècle, et c'est pour ça que là je parle vraiment de défense, ce sont des actions très concrètes qui viennent notamment des milieux anarchistes avec l'action directe de gens qui vont de façon parfois illégale prendre vraiment la défense des animaux, essayer par exemple d'empêcher une corrida d'avoir lieu. On a ça à Paris autour de 1900. Donc là, ce sont des actions très concrètes et qui vont au-delà du simple mouvement politique.
Est-ce que ce mouvement-là, à l'époque, s'inscrit ou va suivre les grandes demandes pour les droits humains en général, ou si on en fait quelque chose de complètement séparé, par exemple féminisme ou antiracisme?
Alors, en fait, si on lit les écrits d'une personne comme Louise Michel, qui était très attachée à la défense des animaux, on se rend compte qu'elle-même, elle lit les deux, c'est-à-dire qu'elle lit le combat pour les humains avec le combat pour les autres animaux. Mm-hmm. Mais il y a vraiment cette idée que ce sont les persécutés de tous les persécutés, les animaux de rente, notamment les chevaux utilisés pour le transport, et que ça va de pair avec une défense aussi des opprimés que sont souvent les ouvriers à l'époque.
Y aura-t-il une entrée en politique partisane et participative? Est-ce que c'est lié au vert, par exemple?
Alors, les écologistes sont un petit peu gênés par rapport à la protection des animaux et à la défense des animaux et tout ce qui est bien-être animal, parce que pour les écologistes, ce qui compte, c'est surtout les espèces. Par exemple, pour des écologistes, si dans une vallée, il y a 50 chamois, 25 naissances naturelles chaque année et 25 qui sont tués par les chasseurs, mm-hmm. ça pose pas de problème, on a toujours 50 chamois. Alors que pour les gens qui sont, on dirait aujourd'hui, antispécistes, qui prennent la défense des animaux, eux, ils s'intéressent aux individus et non aux espèces. Et c'est ça qui fait une grosse différence. Alors, il y a des points de convergence entre les écologistes et les animalistes, mais c'est pas toujours le cas. Et d'un point de vue politique, Les mouvements qu'on connaît encore aujourd'hui, comme le Front de Libération Animale, ou bien PETA, ou bien Animal Voice, sont des organismes plus politiques qui n'ont pas de lien, en fait, avec les écologistes.
Est-ce que c'est un avantage ou un désavantage, à votre avis, Monsieur Segal?
Je pense qu'il pourrait y avoir convergence si les écologistes acceptaient de reconnaître les individus sentients comme des personnes. C'est-à-dire, si les écologistes acceptent de faire ce pas vers les antispécistes, effectivement, il peut y avoir convergence. Mais dans l'état actuel des choses, j'ai l'impression qu'il y a quand même deux voies séparées. Et par ailleurs, les écologistes défendent souvent les petits éleveurs, par exemple, alors que pour les gens qui défendent les animaux, il n'y a pas de bons éleveurs. Il faut au contraire les aider à se reconvertir.
Dans votre livre « Animal radical », vous allez enquêter sur les mouvements antispécistes en France, en Israël, chez nous au Canada aussi. Quelle différence marquante vous pouvez observer entre les trois pays?
Alors, c'est effectivement très différent parce que les histoires de ces pays sont différentes. Israël est un pays, comme on sait, tout à fait récent, depuis 1948. Et là, je me suis posé la question de savoir pourquoi il y avait tant de véganes, pourquoi il y avait aussi beaucoup de gens qui étaient militants de la cause animale. Et il apparaît déjà qu'avec la religion juive, les gens sont habitués à se poser des questions avant de manger, de savoir, par exemple, pour les religieux, si la nourriture est cachère. Et enfin, dernière chose, des militants qui se sont engagés pendant très longtemps pour une paix juste au Moyen-Orient et qui, après avoir subi de nombreux échecs, se sont tournés vers un combat où là, au contraire, ils obtiennent quelques succès. Donc c'est quelque chose qui est très typique en Israël. En France, on a des grands débats intellectuels, notamment avec la création des cahiers antispécistes, qui donnent lieu à des grandes discussions de savoir, par exemple, s'il faut prôner la convergence des luttes ou pas, ou si on peut se concentrer uniquement sur la cause animale. Et l'impression que j'ai eue au Canada, et plus précisément au Québec, c'est que on est beaucoup plus reposé, il y a moins d'animosité dans le milieu de la cause animale, et puis on évalue ce qui vient du monde anglo-saxon, ce qui vient du monde francophone. Il y a aussi des très fortes contributions qui sont propres aux philosophes, notamment aux juristes québécois. Et donc, il y a un petit peu une plaque tournante, je dirais, au Québec, entre les influences anglo-saxonnes et francophones.
Par contre, vous savez, chez nous, il y a les provinces de l'Ontario, de l'Alberta, qui ont commencé à imposer des amendes à des militants antispécistes pour des entrées par effraction sur des fermes, dans des abattoirs. On a vu des actions ici un peu plus radicales, si vous voulez, face à certains restaurateurs. Au Québec, il y a un groupe de travail qui se penche sur cette question-là. Est-ce qu'on est dans l'espèce de dilemme, là? Est-ce que les militants pour la cause animale plus radicaux doivent être considérés comme des terroristes?
Alors, comme des terroristes, je ne pense vraiment pas, parce que lorsqu'il y a effectivement des gens qui entrent par effraction, les dégâts sont tout de même tout à fait minimes. Tout au plus, c'est un cadenas qui a été forcé. Mais ces lois, en fait, qu'on a vues effectivement dans l'Ontario, par exemple, viennent de ce qui se passe aux États-Unis, où là, il y a des lois très fortes en raison d'un lobby très puissant, qui est le lobby de la viande aux États-Unis. En France aussi, il y a une cellule qui a été créée par le ministère de l'Intérieur, la cellule Demeter, qui vise justement à traiter les animalistes comme des terroristes. Mais l'opinion est en train de changer et je pense de prendre parti plutôt pour les animalistes qui sont vus en fait comme des lanceurs d'alerte.
Si vous avez envie, chers auditeurs, de vous plonger dans l'histoire, la sociologie de l'antispécisme, le livre de Jérôme Segal est disponible, Animal radical, publié chez Lux. Merci, M. Segal, du temps que vous avez eu pour nous cet après-midi.
Merci à vous.
Ici Radio-Canada Première, au 95.1, dans le Grand Montréal. Bon.